Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 février et c'est Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors aujourd'hui nous ne sommes que deux. Vincent nous a néanmoins laissé une interview, l'interview de Denis Robert et Gilles Lelouch et Vincent Garenc pour le film L'Enquête dont nous allons parler, qui sort aujourd'hui en salle. Moi, je vous parlerai eh bien, du nouveau Disney. Voilà, j'en ai eu un petit peu marre des films d'auteurs glauques. Donc je vous parlerai des nouveaux héros. Et toi Manu ?
Eh bien, du gros blockbuster qui est sorti la semaine dernière, Jupiter, le destin de l'univers, et puis d'un petit film d'horreur, d'épouvante, indé, qui s'appelle It Follows. Et puis, bien sûr, je continuerai mon exploration du giallo.
Et on commence tout de suite avec Jupiter, c'est Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors Jupiter, c'est le nom d'une brave fille d'origine russe, sans père, alors il est assassiné au début du film, et sans patrie, elle est née sur un bateau. C'est une sorte de Cosette ou de Cendrillon des temps modernes. Elle récure les chiottes et trouve que sa vie est moche, alors qu'on lui a promis un destin exceptionnel. Alors patience petite, un jour des aides venues d'ailleurs tentent de l'assassiner, sauvée in extremis par Kane, un ancien chasseur militaire génétiquement modifié. Elle voit sa vie basculer du jour au lendemain. Alors grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'univers. En fait, elle est la reine du cosmos et possède entre autres une broutille, la Terre. Mais pour cela, elle va devoir se battre et affronter des êtres maléfiques tels Titus et Balem. Rien que ça.
Il y avait dans la Légion un chasseur de primes, légendaire.
Peu importe qui il est ou ce qu'il est. Il vise notre prime.
Assurez-vous que c'est bien elle.
C'est elle.
Bien, tu es là.
Vous êtes qui, vous ?
Kenwise, je suis venu vous sauver.
Vous voulez bien me dire ce qui se passe ?
Nous sommes mêlés à une guerre contre l'une des dynasties les plus puissantes de l'univers.
Pourquoi tout ça m'arrive à moi ?
Vous êtes de sang royal, Majesté.
Vous allez tomber de haut quand je vous raconterai ce que je fais dans la vie.
Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est qui on est. Vous allez me la retrouver, et vous allez me la tuer.
Dors !
Votre vie va changer, Majesté.
Pourquoi ? Vous m'aidez ?
Votre planète Terre est une toute petite partie d'une industrie colossale. Balem reste propriétaire en titre de la Terre. Quand vous la réclamerez, elle sera à vous.
Alors dans ce patchwork où se mêlent réincarnation, astrologie, critique du capitalisme et du profit, réflexion sommaire sur le consumérisme, conte de feignant, Andy et Lana Wachowski, en roue libre, foncent tête baissée sans se préoccuper du bon goût et de la vraisemblance et livrent un space opéra spectaculaire et indigeste, divertissant mais n'évitant pas toujours le ridicule. Alors ils réussissent d'impressionnantes scènes d'action, notamment une course-poursuite dans les airs en plein Chicago, un véritable morceau de bravoure ahurissant, déployant toutes les qualités techniques des cinéastes, à savoir un sens inné du montage et du filmage, rendant l'action parfaitement lisible et jubilatoire. Alors le spectacle hétéroclite est souvent ahurissant et déraisonnable, pour le meilleur et pour le pire. Il faut dire que les ex-frangins ne font pas dans la dentelle, la subtilité n'est pas leur fort. Hein. On assiste à un déploiement de costumes délirants, inspirés par les phrases de la Grèce antique, des monstres d'une laideur fascinante, des décors complètement barrés, filmés sous acide. Alors c'est pas si tout ça est très raisonnable. Pourtant, après l'échec de Speed Racer et Cloud Atlas, les Wachowski avaient apparemment promis de revenir à un blockbuster plus simple, davantage attaché à des conventions un peu dans le style Star Wars. Alors l'influence est indéniable, notamment de Star Wars, mais Jupiter reste quand même un gros délire visuel qui déçoit essentiellement par son scénario d'une naïveté incroyable et puis des personnages sans intérêt, voire grotesques, hormis peut-être celui de l'héroïne très bien campée par Mila Kunis. Mais bon, Channing Tatum est transparent, le mercenaire joué par Sean Bean est sans intérêt. Et puis surtout, le méchant de service, alors je ne sais pas, il est affublé d'une version française absolument horrible. Il est pas incarné, il est désincarné, je dirais, par un acteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Eddie Redmayne. Voilà, donc bon, si on passe outre l'inconsistance du récit, hein, pourtant inutilement compliqué, le film est un space opéra qui se laisse voir. Hein. C'est un spectacle de bonne tenue quand même.
Eddie Redmayne dont tu parles, est celui qui interprète Stephen Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps.
D'accord.
Voilà. Il est nominé pour les Oscars.
Il est effroyable en méchant dans Jupiter. Hein.
Très bien, et bien donc Jupiter est déjà sorti il y a une semaine, à voir ou plutôt à ne pas voir. Hein.
Si, quand même.
Enfin, c'est quand même.
Ben, c'est le scénario qui cloche, mais après, en termes de spectacle, le film est quand même assez fou.
Très bien, donc à voir si vous le voulez. C'est en salle depuis une semaine. On continue maintenant avec les nouveaux héros, le dernier Disney, c'est toujours Cinérama.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Hiro, un jeune génie de la robotique, découvre qu'un complot criminel menace de détruire la ville de San Francisco. Avec l'aide de Baymax, le robot infirmier, et de ses amis qu'il va transformer en une bande de super-héros high-tech, Hiro va-t-il réussir à sauver la ville du très méchant yokai? Bon, je pense que oui, hein, mais il faudra quand même voir le film pour en être sûr.
Bon, alors, si je comprends bien, un homme avec un masque kabuki a donné l'assaut avec une armée de robots volants miniatures.
Des micro-robots. Dis-lui, Baymax.
Oui, monsieur l'agent.
Micro-robots.
Oui, il les contrôlait par télépathie avec un neurocerveau transmetteur. Dépêche-toi.
Je ne suis pas rapide.
Non, sans blague. Cours.
Cinglé avec un masque, il vient d'essayer de nous tuer.
C'est pas génial, ça fiche la trouille évidemment, mais c'est trop nul.
Qu'est-ce qui te prend?
Batterie déchargée.
T'es rentré, mon ange?
Nous avons sauté d'une fenêtre.
Qui est là?
Chut, nous avons chuté d'une fenêtre.
Bébé poilu. Bébé poilu.
Les nouveaux héros sont l'œuvre de Don Hall et Chris Williams, les créateurs de La Reine des Neiges. C'est le 54e classique d'animation des studios Disney et surtout, c'est le fruit de la première collaboration avec Marvel, puisque Marvel a donc été racheté par Disney il y a peu. Alors, l'enjeu premier était de mixer l'univers rassurant et fantaisiste de Disney avec les histoires de super-héros Marvel. Mais au-delà de l'union des studios, le film représente également l'alliance des cultures japonaises et américaines. Et on peut se réjouir pour le coup de constater la place prépondérante laissée à la culture japonaise. En dehors de l'utilisation des mechas, donc ces robots guerriers, que l'on retrouve dans la mythologie nippone contemporaine, il y a dans le scénario des nouveaux héros une vraie valorisation du geek, puisque les personnages n'ont pas de super pouvoir hormis leur intelligence, ainsi qu'une place prépondérante laissée à la thématique de la robotique étant le véritable fer de lance du Japon actuel. Disney a tout de même pris quelques libertés par rapport aux comics originaux. L'histoire supposée se passer au Japon prend désormais place dans une ville hybride inventée de toutes pièces, un mélange de San Francisco et de Tokyo. L'invention de cette nouvelle ville ne laisse rien au hasard. Le moindre personnage qui passe dans la rue a été créé en détail et il y en a environ 700. Les décors sont réalisés avec une densité jamais atteinte et les concepteurs ont été jusqu'à créer un urbanisme propre à la ville. La 3D est extrêmement bien utilisée, ce qui n'est pas systématique dans le cinéma d'animation de ces dernières années. Mais ici, une grande partie de l'action se passe dans le ciel, donc ce qui implique en fait une grande profondeur de champ et des effets visuels qui sont extrêmement bien travaillés. Alors, difficile de réaliser un film humain riche en émotions quand tout tourne autour de la technologie et des robots, mais ces nouveaux héros jouent sur les deux tableaux de façon assez efficace. Niveau scénario, rien de révolutionnaire vraiment, tout est bien balisé et consensuel. C'est un récit initiatique dans la plus pure tradition Disney qui parle donc de famille, d'amitié, de deuil. avec bien sûr un peu d'humour quand même, hein, l'atout comique majeur du film étant le personnage de Baymax qu'on a pu entendre dans la bande-annonce, doublé en français par l'acteur Kyon Kojandi de la série. Bref, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, bon, ça ne vous fera ni chaud ni froid, hein, disons-le clairement. Mais si vous êtes de corvée cinéma avec eux, eh bien, vous allez quand même passer un bon moment. Et puis, pour respecter la fameuse tradition Marvel, restez jusqu'à la fin du générique puisqu'il y a toujours une petite surprise. Et il y a également cette fois-ci un court-métrage qui est diffusé en fait juste avant le film. Donc voilà, pour renouer un petit peu.
Ils font comme Pixar. Hein.
Exactement. Voilà, donc le film Les Nouveaux Héros, ça sort aujourd'hui dans, je pense, toutes les salles. À quand même voir en VO de préférence, c'est toujours mieux. C'est toujours Cinérama et on continue avec It Follows.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, véritable bête de festival, hein, encensé un peu partout, It Follows débarque en France avec une flatteuse réputation de film d'épouvante indé, un croisement improbable entre l'univers d'un Gus Van Sant et puis le cinéma plus viscéral de Carpenter. Alors comme ça, sur le papier, la greffe pourrait prendre. On se met à rêver d'un film mutant alliant des expérimentations visuelles novatrices à un sens de la terreur absolue. Alors, le début qui s'ouvre par un long travelling panoramique circulaire et même un véritable morceau de bravoure, distillant une angoisse diffuse, un mystère sur la nature du mal qui tranche avec les films d'horreur explicatifs surlignant chaque effet. Alors, le sujet n'est pas d'une originalité folle. Hein. Après une expérience sexuelle avec son nouveau petit ami, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper.
À toi et à maman, à quel point je vous aime. Papa, je m'excuse d'être si odieuse parfois. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Sachez seulement que je vous aime, d'accord? Je vous aime vraiment tous les deux.
C'est super joyeux, hein. Un film super joyeux. Alors bon, il y a quelque chose que je trouve de terriblement puritain dans la conduite du récit qui laisse à penser que faire l'amour, c'est mal. Alors soit on se débarrasse du mal en leur filant à un autre, soit on l'attrape comme un virus. Enfin, dans les deux cas, l'idéologie, pour moi, reste un peu douteuse. Après, si l'on s'en tient un peu aux conventions du genre, ce n'est pas le premier ni le dernier film d'horreur à délivrer comme ça un message un peu conservateur, hein, et ni à abuser d'une métaphore un peu lourde, on va dire, sur les ravages du sida. Alors, par contre, en filigrane, on sent, et c'est plus intéressant, une ambition de montrer une jeunesse un peu lasse, désœuvrée, pas vraiment perdue, mais étrangement atone, plongée dans un ennui total. L'environnement pavillonnaire est par ailleurs marqué par l'absence des adultes. Alors, le problème du film, c'est que son réalisateur est censé nous faire peur. Or, de ce point de vue, enfin, là, je parle pour moi, c'est raté. Si la mise en scène est parfois impressionnante par la qualité des cadrages et de la lumière, par cette capacité à instaurer une ambiance pesante, accentuée par une super musique électro, David Robert Mitchell a tendance à se regarder filmer, à se complaire dans des tours de force technique, parfois vides de sens. Alors, beaucoup de zooms alanguis, des ralentis, des plans fixes insistants, des travelling sans arrêt, censés suggérer l'angoisse. Mais ça ne fonctionne pas. Là où un Kushi Kurosawa, parce que pour moi c'est un peu une référence qui revient dans le film, parvient en un plan, grâce à des dispositifs très simples, à foutre les chocottes, Mitchell ne suscite qu'ennui. Le film se délite au fur et à mesure après avoir impressionné dans ses 10 premières minutes. La faute à un scénario surfait et parfois carrément incohérent et tiré par les cheveux. Alors, je ne dis pas ça au hasard, hein, comprenne qui verra le film. Hein. Il y a une scène où qui se fait tirer par les cheveux. Alors la séquence, notamment de la piscine, enfonce même le film dans les arcanes de la série B la plus cheap, et il est tout de même étonnant que la critique soit tombée dans le panneau avec un tel manque de discernement. Alors David Robert Mitchell a du talent, il n'y a pas de doute, mais à mon avis, c'est pas quoi en faire. Les apparitions diverses de l'entité, prenant à chaque fois une forme différente, ne parviennent que très rarement à inquiéter. Et le film frôle même parfois, je trouve, le ridicule. Alors, en ayant comme ça le cul entre deux chaises, en refusant de prendre le genre à bras-le-corps et en l'enrobant comme ça d'un discours pseudo-intellectuel et aussi d'une forme un peu trop léchée, bah, le réalisateur rate sa cible et livre un film brillant, mais que je trouve assez ennuyeux et pas très agréable, finalement.
Très bien. Donc, It Follows, eh bien, alors, c'est sorti depuis une semaine.
Depuis une semaine, voilà. Puis le film fait quand même l'unanimité critique, cela dit.
Oui, exact.
Je le dis parce que ne m'écoutez pas forcément.
It Follows, donc c'est déjà sorti depuis une semaine, pardon, en salle. Et on va maintenant poursuivre avec l'enquête et l'interview donc, de cette semaine. C'est toujours Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Denis Robert travaille dans un prestigieux journal. C'est un journaliste hargneux, intègre, révolté par la corruption française, qui va jusqu'à démissionner lorsque son patron censure l'un de ses éditos. Tant pis, cela lui fera plus de temps pour écrire. D'ailleurs, il a déjà en tête un sujet pour son prochain livre. Et les rencontres qu'il fait au fur et à mesure de son enquête lui font apparaître les contours d'une vaste affaire d'évasion fiscale à échelle mondiale, dont le point de convergence serait une banque au Luxembourg. L'œil du cyclone s'appelle Clearstream, et Denis Robert ne sait pas encore que son enquête va durer plus de 10 ans et qu'elle va créer un véritable séisme dans le monde politique, financier, judiciaire et dans sa propre vie. C'est Vincent Garenque qui met en scène la plus célèbre affaire judiciaire de ses débuts de XXIe siècle. Vincent Garenque qui est coutumier du fait, hein, puisqu'il avait également réalisé Présumé coupable autour de l'affaire Doutreau il y a quelques années. L'enquête est efficace, servie par une interprétation sobre et soignée. Gilles Lellouche trouvant sans doute là son meilleur rôle. Bon, c'était pas très difficile de faire mieux que ses rôles précédents, c'est vrai. Même si on aurait bien aimé un peu plus de suspense et de rythme dans la réalisation. Alors il n'en demeure pas moins que sur une enquête fleuve et extrêmement complexe, le film parvient à nous captiver sans noyer le spectateur. La collaboration entre le réalisateur, le journaliste et l'acteur donnant lieu à une alchimie très réussie et ça se sent. Et justement, eh bien, nous allons entendre le réalisateur Vincent Garenque, le journaliste Denis Robert et l'acteur Gilles Lellouche que nous avons rencontrés tous les trois et qui nous parlent donc de leur collaboration sur ce film.
Vous êtes bien Denis Robert ?
Oui.
Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition.
D'abord, je crois que c'est un film de cinéma. C'est un vrai thriller qui d'ailleurs est vendu à l'étranger. Donc on a eu des retours. Je veux dire, les Allemands, les Italiens, les Américains achètent le film. Donc c'est une histoire universelle à la Erin Brockovich un peu.
Mais pourquoi il dirait ça ? Pourquoi il me ferait un plan pareil ? Enfin, c'est carrément dingue.
C'est un personnage qui se bagarre contre des puissants, etc. Mais pour les Français, c'est encore plus intéressant parce que ça raconte une histoire qui parle à tout le monde. Tout le monde a entendu parler de Clearstream. De 2004 à 2009, le moment du procès, on a mangé du Clearstream dans tous les journaux. Et en fait, ce que les gens ont perçu de Clearstream, c'était une sorte d'écume médiatique pleine de mensonges, pleine de falsifications, etc. Et donc le film, je trouve, réveille un peu tout ça.
Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers.
Vous avez déjà entendu parler de Clearstream ?
Parce que le projet de départ de Vincent, l'affaire Villepin-Sarkozy ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était le truc que j'ai vécu, les procès, tout le combat que j'ai mené contre Clearstream, quoi. Et donc, après, il y a ce phénomène assez étrange qui est qu'une œuvre de fiction interprétée par un autre que moi, qui porte mon nom, donne un impact infiniment supérieur à un travail journalistique, de documentaire, etc. Mais ça, c'est la magie du cinéma, la force de son interprétation, cette alchimie étrange qui fait qu'à un moment, un film de cinéma va parler à beaucoup de monde. On passe d'une échelle de 1 à 100, assez étrangement, quoi.
Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français et de deux candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé.
À un moment, j'étais plus du tout audible dans les médias. Il fallait que je me taise et que je me bagarre judiciairement, quoi. Mais si j'étais plus audible, c'est parce qu'il y a eu une stratégie orchestrée, délibérée. Et d'ailleurs, avec le recul, sans, j'ai aucune animosité, aucune rancœur, mais je dois dire que les journalistes, ça n'a pas été terrible, quoi. J'ai eu des soutiens importants, d'ailleurs, beaucoup dans la presse régionale, beaucoup des reporters, des types qui lisaient mes livres et tout, savaient très bien ce que j'avais fait. Mais au niveau des éditorialistes, au niveau parisien, au niveau, vous savez bien, Le Monde et d'autres journaux, c'était destructeur, quoi. Mais on voit que là, il y a eu une... Tout ça a été à la fois orchestré par Clearstream et ses communicants et ses juristes et tout. Et puis après, il y avait... J'étais journaliste à Libération, j'ai pas eu que des amis à Paris et tout. Et moi, je suis pas parisien, j'ai pas de réseau, donc c'était difficile, quoi.
J'ai rencontré un type.
T'as raconté quoi ?
L'histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale.
J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là.
Il y a eu des moments difficiles parce que je fais une interview du PDG de Clearstream, André Lucy, PDG inamovible. Ça fait 11 ans qu'il est au cœur du Luxembourg. Tous les banquiers viennent lui manger dans la main. Enfin, c'est un mec super puissant. Et donc, il me reçoit en interview et il me traite comme un... Mais moi, j'ai joué à ça. C'est-à-dire, j'étais une espèce d'idiot pour lui qui venait poser des questions sur la vitesse des échanges financiers, etc. Mais l'interview est fondatrice, quoi. Et je fais cette interview en début juillet 2000. Et je lui envoie un mail, une lettre commandée en septembre en lui disant, voilà, j'ai réfléchi, j'ai enquêté, je pense qu'il y a des comptes non publiés, que c'est pas clair, etc. Il ne répond pas. Et ensuite, en décembre, je renvoie une deuxième lettre commandée où là, c'est plutôt le j'accuse de Zola, quoi. Je vous accuse de machin et tout. Un livre va sortir et donc je vous préviens, je veux pas vous prendre en traite parce que j'avais aucune animosité contre eux. Et donc je voulais simplement qu'ils répondent aux questions précises que je posais, très technique sur les choses. C'est là où il y a eu un moment de trouble, parce que là, il y a eu des pressions sur moi. On l'a su, j'avais toujours des insiders à l'intérieur du système qui me racontaient. Il s'est créé à l'intérieur de Clearstream une sorte de cellule noire où ils avaient décidé de me déstabiliser. Donc, il y avait plusieurs scénarios. Le premier, c'est qu'ils faisaient des questionnaires type où les salariés de Clearstream, si on les interrogeait sur moi ou sur l'enquête, devaient répondre un certain nombre de choses. Tout ça, je l'ai expliqué dans mes livres et tout ça. Et après, il y avait le scénario noir qui était... il y avait par exemple un scénario où je devenais toxicomane. Et ça, c'est dans les PV au Luxembourg. Et donc, il fallait... Parce que... Alors, je vais vous expliquer très rapidement la genèse de tout ça. C'est parce que dans un article que j'avais écrit au moment où je courais... j'avais fait un marathon à New York. J'avais dit que j'avais pris de la cocaïne après mon marathon, ce qui était vrai. J'ai dû faire ça 2 fois dans ma vie. Je suis absolument pas cocaïnomane. Et j'ai pas de propension à ça. Mais dans le papier, j'écris ça, quoi. Et un mec de chez Clearstream avait récupéré cet article-là. Et donc, ils se sont dit, on va... Le type me prévient. Il me dit, ils vont planquer... J'avais un bureau à Metz, de la drogue chez toi, enfin, fais gaffe, ils sont sur... Et à ce moment-là, il y avait une histoire d'entraîneur de foot allemand qui était tombé en Allemagne pour une histoire de cocaïne aussi. Et ils avaient fait une étude de ses cheveux, ils avaient vu qu'il prenait de la cocaïne. Et donc moi, avec mon éditeur, Beccaria, Laurent, il avait décidé, pour parer à tout ça, à me faire sous huissier et sous... Ils m'ont coupé une mèche de cheveux qu'on a mis dans une enveloppe au cas où l'histoire sorte. Et on leur a fait savoir. Je vous raconte ça un peu longuement pour vous montrer le climat de parano qu'il y avait à ce moment-là. Moi, ça me faisait marrer parce que je pensais pas qu'ils en arriveraient là. Après, il y a eu d'autres histoires beaucoup plus troubles. Il y avait un scénario de pédophilie sur moi. Dans les réunions, ils avaient monté ça pour il fallait absolument me voilà, quand je disais tuer le messager, c'était ça, quoi. Et donc après, j'avais aucun problème de danger physique me concernant, enfin en tout cas. Mais c'est vrai que un de mes informateurs qui était délégué du personnel a eu un accident de voiture, on a dévissé ses roues. Un autre qui était pour moi quelqu'un d'important parce qu'il m'avait pas mal informé, et il m'avait promis qu'il me parlerait. Et quand je suis allé le voir, il m'a expliqué que sa petite fille qui était dans une crèche a été raccompagnée par un inconnu qui lui a dit, tu diras à ton papa que... Et le type a plus jamais voulu me parler. Enfin, vous voyez, c'était un climat très pesant, quoi.
Vous avez quitté Clearstream il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là?
Je vous avoue que je l'ai compris mieux déjà en lisant effectivement la bande dessinée qui était une base de travail pour le scénario. Et encore mieux quand j'ai vu le film. Encore plus qu'en ayant lu le scénario. Non mais n'empêche que c'est quand même formidable de la part de Vincent de réussir à nous faire entendre et comprendre une affaire aussi, aussi obscure, tentaculaire, etc. Ça fait des années qu'on en entend parler. Moi, c'est la première fois que j'ai le sentiment de la comprendre vraiment.
Je viens de lire le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là ? Vous voulez vous attaquer à trop gros.
T'as fait tout ça pour rien, mon amour.
Voilà, c'était donc Denis Robert, Vincent Garinck et Gilles Lellouch pour une conférence de presse sur le film L'Enquête, une conférence de presse vraiment passionnante, hein, je tiens à le dire, encore plus que le film d'ailleurs. L'Enquête, ça sort aujourd'hui en salle dans les cinémas en France. Et maintenant, nous allons poursuivre ton cycle sur le giallo, Manu.
Effectivement, et on y va tout de suite.
Et allez, on y va tout de suite.
On y va. Alors, malgré la tentative, alors j'ai terminé la semaine dernière sur l'explosion du giallo. Alors, malgré cette tentative de Baba d'ouvrir le genre vers d'autres horizons plus conceptuels, les gialli, ou giallo, qu'on le dit un peu comme on veut, hein, prolifèrent entre les années 70 et 75. Alors, pas un réalisateur bis n'échappera à la réalisation de ces thrillers souvent destinés au marché international. Alors, pour en citer quelques-uns, hein, Duccio Tessari, Fernando Di Leo, Umberto Lenzi, Joe D'Amato, Sergio Martino, Luciano Ercoli, tous ajouteront chacun leur pierre à l'édifice. Alors, en toute objectivité, ces films, en dépit d'intrigues parfois similaires, sont tous techniquement très bien faits et au-delà des qualités formelles, certains d'entre eux sont des petites merveilles, comme ceux de Sergio Martino qui a souvent fait preuve d'un talent de plasticien assez incroyable. La mort caresse à minuit du méconnu Luciano Ercoli est un très bon film, très ingénieusement ficelé et bien réalisé. Il y a aussi Je suis vivant d'Aldo Lado, qui est une œuvre remarquable, mais je reviendrai sur ces films dans les prochaines fois. Et puis enfin, un de mes préférés qui s'appelle Mais qu'avez-vous fait à Solange de Massimo Dallamano, qui est à mon avis un des plus beaux giallos de ce mini âge d'or, un film sensuel et pervers. J'y reviendrai et on écoute un petit peu la bande originale du film signée Morricone. Mais après 1975, le genre s'essouffle et le public se détourne des gialli. Le succès de certains films américains comme L'Exorciste ou Massacre à la tronçonneuse inciteront les financiers à produire des films d'horreur de plus en plus malsains et sanglants. Ils inventeront même quasiment un genre à part entière avec les films de cannibales. La sortie aussi de zombies va également ouvrir la voie aux films de morts-vivants bien gore. Alors le dernier grand giallo des années 70 est évidemment le splendide Les frissons de l'angoisse, variation ludique et enivrante du blow-up d'Antonioni. Alors en insérant des éléments fantastiques, Les frissons de l'angoisse est aussi une œuvre de transition pour Argento qui plongera corps et âme par la suite dans l'occultisme, l'ésotérisme et l'alchimie avec Suspiria et surtout Inferno. Alors depuis le début des années 80, le giallo est à l'agonie, hein, comme le cinéma italien d'ailleurs. Donc il ne reste plus grand-chose à part Dario Argento et dans une moindre mesure Lamberto Bava, le fils de Mario Bava et puis Lucio Fulci. Ce sont à peu près les seuls qui ont pu ranimer la flamme. Alors le premier, Argento avec Ténèbres, hein, qui signe un chef-d'œuvre postmoderne du giallo. Alors la qualité du script est un concentré des thèmes fétiches du réalisateur. Désir refoulé, obsession sexuelle, réflexion sur le réel et la fiction sont les nerfs névralgiques de ce thriller dément, le plus violent réalisé par Argento en pleine possession de ses moyens. Alors sinon, on peut aussi... Il y a Lamberto Bava qui a livré au cours de ces années quelques petits giallis sympathiques sous forte influence d'Argento, dont l'agréable Maison de la Terreur qui pompe allègrement Ténèbres. Alors dans L'Éventreur de New York, là c'est Lucio Fulci, il va très loin dans la démesure et le malsain avec son assassin à la voix de canard et ses meurtres bien crades. Enfin, peut-être le dernier giallo réel qui est plus proche du slasher, Bloody Bird, qui est un film qui fascine par sa virtuosité de la mise en scène. Alors c'est le premier film de Michel Soavi, il contient vraiment de superbes séquences, et peut-être le dernier giallo de qualité, hormis peut-être un ou deux autres Argento. Donc en fait, le giallo aujourd'hui n'existe plus vraiment, il y a ce qu'on appelle des réflexions sur le giallo, des néo-giallo, notamment avec les deux films français qui sont sortis ces dernières années, Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, d'Hélène Cattet et Bruno Forzani. Donc ce sont ce sont pas de vrais giallos. Donc la semaine prochaine, je reviendrai sur un cycle où j'évoquerai chaque semaine un giallo particulier.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, du sexe, des meurtres, des merveilles. Également, moi, je vous parlerai de 50 nuances de Grey. Donc, toi, tu continueras ton cycle sur le giallo.
Oui, je pense que je ferai une chronique sur Mais qu'avez-vous fait à Solange, de Massimo Dallamano. Et puis, j'irai voir Les Merveilles, je pense.
Voilà, récompensé au dernier festival de Cannes. À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.